Vous écoutez On lit pour vous.
Dans les régions rurales, une itinérance cachée. Un texte de Radio-Canada, paru le 29 mai 2024, d'après un reportage de Paul Légère. Même si la question de l'itinérance attire plus souvent l'attention en ville, il y a aussi des personnes sans abri en région rurale où les services d'aide sont moins nombreux. Les organismes qui existent pour les épauler parlent d'une itinérance cachée. À Kentville, dans la vallée d'Annapolis en Nouvelle-Écosse, Brent Monroe a été accueilli à bras ouverts il y a 2 ans dans le refuge de l'organisme Open Arms. Maintenant, il travaille pour eux en faisant le transport de dons, comme les meubles. C'est la perte d'un emploi et des problèmes de santé qui l'ont poussé à la rue. Il n'a plus honte de parler de l'époque où il couchait dehors. « Oui, j'avais honte. Mais plus maintenant, » dit Brent Monroe. Les gens ne réalisent pas l'étendue du problème. N'importe qui, du jour au lendemain, peut se retrouver en situation précaire. Ça n'arrive pas qu'à Halifax. Absolument pas. C'est assez répandu, poursuit-il. Il se considère chanceux d'avoir trouvé Open Arms, qui offre une panoplie de services aux plus démunis. Néanmoins, les ressources en région sont limitées, constate Melissa Pearl, travailleuse de soutien pour cet organisme. On a toujours besoin de plus. On est tellement petit, comparativement à Halifax, dit-elle. Plusieurs personnes dans le besoin à travers la vallée d'Annapolis gravitent vers Kentville plutôt que de se rendre à Halifax, qui est à plus d'une heure de route. Il n'y a pas que la distance. Les gens veulent rester ici, dans leur communauté, près de leur famille, dit Debra Large, la gestionnaire de Tiny Meadows, un nouveau projet de village de refuge géré par Open Arms. En région rurale, les personnes sans domicile vont souvent camper en forêt, note-t-elle. On n'a pas les gros campements d'Halifax, mais ici, les sans-abri sont plus dissimulés en petits regroupements. Je comprends que, comparativement à Halifax, l'itinérance peut sembler mineure ici. Mais ça existe. Et c'est caché, déclare-t-elle. C'était Dans les régions rurales, une itinérance cachée, un texte de Radio-Canada, paru le 9 mai 2024, d'après un reportage de Paul Légère.
Pourquoi y a-t-il de plus en plus de sans-abri dans les quartiers résidentiels? Un texte de Caroline Touzin, paru le 30 mai 2024 dans la presse. Ici, une tente aux abords des terrains de tennis d'un parc d'Annecy. Là, un sans-abri âgé dort dans l'entrée d'une banque de la promenade Fleurie. Le commissaire aux personnes en situation d'itinérance à la Ville de Montréal, Serge Larrault, a répondu à nos questions sur la présence des sans-abri dans les quartiers résidentiels. Pourquoi y a-t-il de plus en plus de sans-abri dans les quartiers résidentiels, loin des grands refuges du centre-ville de Montréal? Si on regarde de façon globale, selon le dénombrement de 2022, il y a une augmentation de 33 % de l'itinérance visible à Montréal. On constate aussi un appauvrissement dans plusieurs secteurs de la ville, dans plusieurs arrondissements. Il y a un manque de logement, l'augmentation des loyers, la hausse du coût de la vie. Des personnes s'appauvrissent jusqu'au point de devenir sans abri. Elles n'ont pas nécessairement l'intention de quitter leur lieu de vie et d'aller dans le centre-ville. Historiquement, l'itinérance était au centre-ville. Les grands organismes s'y sont créés, mais le centre-ville, c'est particulier, c'est la vie active. C'est aussi le lieu où il y a beaucoup de ventes de drogue. Ce n'est pas toutes les personnes de la rue qui ont envie de quitter leur secteur de la ville et de s'en aller vers ces ressources-là. C'est pour ça qu'il faut qu'on parle de plus en plus d'une équité territoriale, c'est-à-dire d'avoir des services un peu partout sur l'île de Montréal pour accommoder ces gens-là. On doit pouvoir offrir des services là où sont les personnes. Qu'est-ce que cela peut créer comme tension? Avec une augmentation de l'itinérance, une hausse des enjeux de santé mentale, la crise des opioïdes, des drogues de plus en plus fortes qui circulent, cela déstabilise la population. Cette dernière vit un sentiment d'insécurité, un inconfort aussi. Des gens sont choqués. Ils se disent « Voyons, il faut que l'État s'occupe des personnes, donc ça crée des enjeux de cohabitation. » La plupart des personnes de la rue ne sont pas des personnes dangereuses. Ce sont des gens qui sont vulnérables, bien sûr, qui ont des difficultés, mais qui peuvent avoir des comportements qui inquiètent les autres. On doit favoriser la cohabitation, rassurer tout le monde et s'assurer que les services aux sans-abri cohabitent bien avec les autres services de proximité comme les commerces. C'est important, en tout cas, de faire une place à ces personnes. S'il y a des résidences très proches, des CPE, des écoles, c'est sûr qu'il faut accorder une surveillance importante. Il faut s'assurer que les gens cohabitent bien. On doit aussi s'assurer qu'on est capable de s'occuper des personnes en situation de crise pour qu'elles se conforment aux usages qu'on doit tous avoir ensemble. Même si c'est proche, même si ce n'est pas toujours facile. Puis, ce sont des organisations qui sont récentes dans les secteurs résidentiels. Souvent, avec le temps, il y a une amélioration de la cohabitation. Il faut combattre à la fois les risques d'incivilité, mais aussi le sentiment de peur qui n'est pas toujours justifié. Ce n'est pas simple. C'est pour ça qu'on a créé une équipe comme EMIS, l'équipe mobile de médiation et d'intervention sociale, pour justement aider tout le monde, autant les personnes vulnérables que les résidents, à se connaître, à se comprendre et à pouvoir vivre ensemble. Est-ce unique à Montréal comme phénomène? Le phénomène des « rough sleepers », qu'on peut traduire par « dormeurs de rue », et des campements, c'est quelque chose qui existe depuis plus de 20 ans dans l'Ouest américain et dans l'Ouest canadien. Avec l'augmentation de l'itinérance et de la pauvreté, on le voit de plus en plus à Montréal. Pour combattre cette grande précarité-là qui amène des gens à vouloir dormir dehors, il faut s'assurer qu'il y a assez d'hébergements d'urgence, qu'il y a du logement. On vit une crise du logement. On en a assez parlé dans les médias. On doit travailler sur tous ces fronts-là pour pouvoir offrir aux personnes d'autres options que de dormir dans la rue. On a doublé pendant la pandémie le nombre de lits d'hébergement d'urgence, mais en même temps, les refuges ne doivent pas être un lieu permanent. Il faut une sortie des refuges. C'est pour ça que les villes supplient les paliers de gouvernement supérieur d'augmenter le financement et d'accélérer la construction de logements sociaux. C'est ça qui, à la base, crée toute cette crise-là. Montréal semble avoir fait un virage à 180 degrés sur les campements de personnes en situation d'itinérance. En janvier, en entrevue à la presse, vous nous disiez qu'il fallait les démanteler pour des raisons de sécurité et de dignité humaine. Aujourd'hui, vous évoquez l'idée de faire des villages temporaires de mini-maisons le temps de construire des logements sociaux. Qu'est-ce qui explique ce changement de cap? En fait, on est à la recherche de solutions. Ce qui est privilégié à Montréal, c'est d'avoir un cadre bâti solide, puis de faire de la densification. C'est sûr que ce qu'on vise, ce sont des immeubles de logements sociaux. En revanche, on sait tout le marasme qu'il y a actuellement sur l'évolution des programmes. C'est très lent en ce moment, construire du logement social. Est-ce qu'il y a des opportunités différentes? On le voit. Pour accélérer une offre d'hébergement, plusieurs villes vont créer des parcs de roulottes, parfois de mini-maisons. Il y en a d'autres, Ce sont des unités temporaires, des abris, de l'hébergement individuel, dans des parcs, sur des terrains. On voit plusieurs modèles dans les villes nord-américaines. On est à l'étape de la recherche. Ce n'est pas comparable à des campements, à des abris de fortune faits avec des planches de bois ou à des tentes qui ne sont pas équipées pour l'hiver. À Windsor, en Ontario, ou à Halifax, en Nouvelle-Écosse, on a mis des unités modulaires qui permettent d'héberger des gens en attendant de construire de plus vastes ensembles de logements sociaux. On regarde ce concept-là qui est très particulier. On a aussi démarré un comité ad hoc sur les besoins des personnes qui n'accèdent pas à l'hébergement d'urgence ni au logement. On parle des campeurs, mais aussi des gens qui dorment dans les entrées de commerce. Est-ce que ce type de projet d'unité modulaire peut les aider? Avec l'augmentation de l'itinérance, il faut augmenter nos services. Dans ce comité, il y a des experts du milieu communautaire, de la ville et du secteur de la santé qui vont regarder quelles sont les meilleures pratiques ailleurs dans le monde et ce qu'on peut faire à Montréal pour aider ces gens isolés, désaffiliés du système, qui dorment dans la rue. C'était « Pourquoi y a-t-il de plus en plus de sans-abri dans les quartiers résidentiels ?» un texte de Caroline Touzin, paru le 30 mai 2024 dans La Presse. Les défis de la destinée. Un texte d'Isabelle Léveillé-Blané, paru le 25 mai 2024 dans La Presse. Se retrouver à la rue, c'est une série de petites bad luck que tu ne vois pas toujours venir. Tu n'as plus de travail, tu n'arrives plus à payer ton loyer, ton linge propre ne te fait plus, tu as nulle part où aller. Comme tu n'as jamais connu la pauvreté, tu ne sais pas où aller pour te nourrir. Tu es entré dans un monde que tu ne connaissais pas. Tu n'oses pas aller à l'appartement parce qu'il faudrait que tu sortes tes trucs. Tu as fait ta demande d'aide sociale, mais c'est la course aux documents et tu reçois ça au bout de 2 à 3 mois quand le pire est arrivé. Déboussolé, tu fais de ton mieux. Quand tu n'as pas beaucoup d'amis, ce n'est pas toujours évident de trouver un colocataire. C'est l'option économique la plus envisageable, mais elle reste précaire. Tu ne sais pas si tu vas t'adonner avec lui, s'il va payer sa part à temps, si une ancienne locataire voudra revenir ou si un ami voudra la place. Bref, il arrive des contretemps qui font en sorte qu'il faut que tu partes sans délai. Avec le stress de se retrouver dans la même situation, tu n'as pas le choix et tu vas à la première place où on te dit oui. Tu n'as pas de bail. Ils peuvent te jeter dehors comme ça quand ils le veulent. Le gros chèque. Moi, j'ai le gros chèque, mais malgré ça, je n'ai pas les moyens de me payer un appartement à moi seul, même le plus petit des studios ou la maison de chambre. Il faut penser à vivre. Se nourrir, se vêtir. Quand ton loyer et l'électricité bouffent plus de la moitié de ton chèque, c'est dur. Puis, quand tu es vraiment motivé à payer, c'est le propriétaire qui dit que tu n'auras pas assez d'argent, que tu ne pourras pas payer à temps, qu'il va avoir des problèmes parce que ton budget ne le permet pas. Des bâtons dans les roues. J'ai travaillé presque toute ma vie. Mais je ne suis plus capable de le faire à temps plein dorénavant. Quand tu es bénéficiaire de l'aide sociale, ce n'est vraiment pas facile d'avoir un toit beau, grand, pas cher, pas de bibitte, mais tout ça, c'est secondaire. Tu passes en dernier. Tu peux convoiter des appartements subventionnés ou à l'office municipal d'habitation, mais il faut quand même que tu habites quelque part entre-temps. Tu leur rappelles que tu existes. Mais tu n'es pas une priorité pour eux. Ce n'est pas juste un problème d'argent ou de provenance, c'est un problème de crédit, de référence. Il y a tellement de monde qui vient pour une visite que tu es vite dépassé parce que tu es pauvre et instable. J'ai eu des problèmes avec la régie pour une éviction. On refusait tout simplement mon argent. Les propriétaires ont du pouvoir sur nous, je l'ai découvert à mes frais. Pour ce qui concerne le logement social, tu te dois d'avoir un dossier inactif à la régie pendant 10 ans après jugement. Ça prend du temps. Et ça se présente mal quand tu ne connais pas les procédures et que ta cause ne se termine pas par un arrangement. Accès itinérance. Il y a toujours la possibilité d'aller dans une maison d'hébergement en attendant. Cela te donne un sursis d'environ 1 à 3 mois. Par contre, le problème reste le même. En plus, tu n'as pas toute ta liberté, tes choses sont stockées ou perdues, tu es contrainte aussi à des heures de repas, d'entrée, de sommeil et de prise de médicaments. Il y a même des endroits où tu dois subir un examen psychiatrique. C'est souvent rendu à cette étape que tu préfères rester dans la rue. Certains l'apprennent à la dure, la transition est difficile pour beaucoup. Il y a des ressources, des initiatives et des constructions récentes de logements abordables, des HLM ou appartements subventionnés ou à prix réduit qui sont disponibles, mais l'accès nécessite beaucoup d'attente. Pour ma part, je suis en appartement et même quand la pension arrivera, je resterai pauvre. Au gouvernement, je dirais qu'il faut investir dans le logement social. La plupart des gens ayant un petit budget n'en ont pas. Il y a encore beaucoup de travail à faire en ce sens. C'est un problème largement abordé et qui reste d'actualité. Je voulais démontrer, par mon expérience, que ce n'est pas toujours facile de s'en sortir, que l'itinérance n'est pas nécessairement un choix de vie, et surtout, que personne n'est à l'abri. Ce sont les défis de la ma destinée. C'était Les défis de la destinée, un texte d'Isabelle Léveillé-Blané, paru le 25 mai 2024 dans La Presse.
L'organisme Transit Sept-Îles au service des personnes vulnérables depuis 20 ans. Un texte de Catherine Gosselin, paru le 1er juin 2024 sur radiocanada.ca. L'organisme Transit Sept-Îles souffle ses 20 bougies. C'est le 1er juin 2004 que Bertrand Rossignol et Gaston Robichaud ont pris la décision de relancer le service d'hébergement pour les personnes vulnérables. Ce sont les frères des écoles chrétiennes qui ont mis sur pied ce qui était d'abord la maison de transit de 1980 à 2003. Devenue depuis Transit Sept-Îles, l'organisme dispose aujourd'hui d'une douzaine de lits dans 6 chambres et propose un accompagnement essentiel en raison de la pénurie de logements. Avant, l'itinérance était beaucoup plus cachée. Mais, cachée ou non, notre mission reste d'aider les gens, rappelle Valérie Santerre, la directrice de Transit Sept-Îles, qui entame sa 20e année au sein de l'organisation. C'est par vagues que la situation a évolué dans la région au cours des dernières années, selon le premier directeur de l'histoire de Transit Sept-Îles, Doris Nadeau. L'exemple le plus probant, c'est qu'on ne parlait pas de comorbidité dans le temps et tranquillement, ça s'est installé dans notre communauté, soutient-il. Valérie Santerre, qui a d'abord été intervenante et chef d'équipe, indique que les méthodes de travail ont dû s'adapter au changement de visage de l'itinérance à cette île au fil des ans. Le travail en tant que tel reste le même. Ça prend toujours de l'empathie. Mais avoir une plus grande équipe nous permet de répondre à la demande grandissante. C'est ce qui change, explique-t-elle. Elle ajoute que malgré les défis liés à l'inflation et au coût élevé des loyers, Transit Sept-Îles continue de chercher des solutions pour les personnes en situation d'itinérance. Valérie Santerre salue aussi l'aide qu'apporte la communauté septilienne à l'organisation. les gens font beaucoup de dons, autant des vêtements que des articles de base. C'est fou comment la population nous aide, confie la directrice de Transit Sept-Îles. Transit Sept-Îles se tourne vers l'avenir. Cet anniversaire est aussi une occasion pour l'organisation d'entamer une réflexion sur son avenir. J'ai toujours rêvé de fermer la ressource dans le sens où il n'y aurait plus d'itinérance ou de pauvreté. Je rêve un peu en couleur. Transit Sept-Îles, c'est comme mon bébé, donc dans le contexte, je souhaite que l'organisation perdure, indique Doris Nadeau. On veut vraiment se concentrer sur l'aide aux personnes vulnérables, car on sait que la ressource sera nécessaire encore pour plusieurs années, conclut Valérie Santerre. Le 20e anniversaire de l'organisme sera souligné le jeudi 6 juin. C'était l'organisme Transit Sept-Îles au service des personnes vulnérables depuis 20 ans, un texte de Catherine Gosselin, paru le 1er juin 2024 sur radiocanada.ca.
Une opportunité pour ceux qui veulent se sortir de l'itinérance. Un texte de Stéphane Martin, paru le 24 mai 2024 dans Sorel-Tracy Magazine. L'organisme La Porte du Passant inaugurait jeudi son nouveau projet pilote qui a pignon sur rue au 92, rue Élisabeth à Sorel-Tracy. Le projet 92 a pour but d'alléger la situation d'itinérance dans le contexte de crise du logement que l'on connaît dans la région. Pour ce faire, l'ancien restaurant L'Aquarelle, propriété de l'entrepreneur Michael Ménard, a été converti en maison de 9 chambres où pourront cohabiter des gens qui ont le désir de se sortir de l'itinérance. C'est l'étape entre la rue et le logement. Il faut comprendre que le refuge du 80 rue Phipps va rester. Ceux qui vont passer par ici sont les personnes qui ne veulent pas dormir dans un dortoir et qui sont prêtes à se prendre en main. C'est un endroit de transition, explique la directrice générale de La Porte du Passant, Marie-Josée Avril. Nos intervenants accompagnent les personnes qui seront hébergées au projet 92. La personne pourra demeurer ici tant qu'il est démontré qu'elle se mobilise, qu'elle se trouve un emploi ou qu'elle retourne aux études, etc. L'objectif est d'avoir un vrai logement avec un bail. On travaille avec la responsabilité du locataire. On n'est pas dans la défense des droits. C'est une démarche de responsabilisation. C'est la crise du logement qui a amené la région à se mobiliser pour ce projet pilote. Depuis 2016 que l'on fait du soutien résidentiel avec accompagnement, avec la pénurie de logements, c'était devenu impossible de faire notre travail. L'année que va durer ce projet pilote va nous permettre d'avoir des statistiques afin de cerner réellement les besoins de la région, ajoute Mme Avril. Présent lors de l'inauguration, le directeur général du réseau Solidarité Itinérance du Québec n'avait que de bons mots pour l'organisation de La Porte du Passant. C'est l'exemple d'un organisme qui a élargi ses champs de compétences afin de supporter l'ensemble du milieu. Au début, on parle de sécurité alimentaire, d'un milieu de vie, d'un refuge et maintenant, une maison de chambre. La communauté est mobilisée et c'est signe d'espoir. De conclure, Boromir Vallée d'Or. C'était une opportunité pour ceux qui veulent se sortir de l'itinérance, un texte de Stéphane Martin, paru le 24 mai 2024 dans Sorel-Tracy Magazine.
De la rue à la cuisine, un jeune passionné veut redonner au suivant, un texte de Nicolas Saint-Pierre, paru le 31 mai 2024 dans le Journal de Québec. Après avoir vécu en situation d'itinérance, un jeune homme âgé de 22 ans a été sauvé de la rue grâce au Centre Jacques Cartier, CJC, de Québec, qui l'a pris sous son toit, lui permettant ensuite de faire grandir sa passion pour la cuisine. Placé à la DPJ dès son jeune âge, Zacharie Fournier a effectué un retour chez sa mère à l'adolescence. N'étant pas un milieu adéquat, il a finalement emménagé seul en appartement à 18 ans. Il s'est toutefois retrouvé à la rue un peu plus tard, avant de découvrir le centre résidentiel et communautaire Jacques Cartier. Quand je suis arrivée, c'est comme si j'avais ouvert les yeux pour la première fois. J'avais plein de possibilités pour m'impliquer, et c'était ce dont j'avais besoin, explique le jeune homme. Il précise d'ailleurs que le centre lui a permis de réaliser qu'il était capable de vivre de sa passion pour la cuisine, même s'il n'avait jamais réussi à conserver d'emploi dans le domaine auparavant en raison de ses problèmes avec la ponctualité et l'organisation. Ici, j'ai compris qu'avec des gens qui se concentrent sur le positif, j'étais capable d'accomplir de très belles et grandes choses. J'ai enfin pu exploiter mes compétences et recevoir l'encouragement et l'accompagnement que je n'avais jamais vraiment eu avant, a-t-il souligné. Donner au suivant. C'est d'ailleurs avec ce soutien de la part du CJC qu'il travaille à créer son propre organisme communautaire visant à offrir de la nourriture gastronomique aux gens qui ne peuvent pas s'en payer. Quand je faisais mes cours en cuisine, je rêvais d'avoir mon restaurant. Mais en arrivant dans le milieu communautaire, j'ai réalisé que je ne voulais pas seulement faire de la cuisine pour faire de l'argent, mais pour rassembler et rendre heureux, a-t-il confié au journal. Il croit d'ailleurs que tout le monde devrait avoir le droit à un repas copieux, y compris ceux n'ayant pas les moyens. Possible de s'en sortir. Fier du chemin qu'il a parcouru, Zacharie Fournier veut maintenant partager son histoire afin de montrer qu'il est possible de retrouver le droit chemin malgré les épreuves difficiles de la vie. Il y a moyen de s'en sortir, et il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Je ne parle pas nécessairement d'aller voir un professionnel, mais juste d'avoir une petite communauté, ça permet de se rassembler et créer des liens pour ensuite avancer vers un point commun. L'important, c'est de garder espoir, parce que tout finit toujours par s'arranger. C'était « De la rue à la cuisine ». Un jeune passionné veut redonner au suivant un texte de Nicolas Saint-Pierre, paru le 31 mai 2024 dans le Journal de Québec.